Alléluia! Applaudissons notre Seigneur Jésus. Seigneur, nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Roi. Nous t'acclamons ce matin. Oh, gloire à Dieu! Gloire au Seigneur Jésus! Louange! Louange à notre Dieu ce matin! Oh, béni sois-tu, Seigneur Jésus! Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Oui, gloire à Jésus! Louange, 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 louange à notre Dieu! Oh, merci, Seigneur! Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Oui, Seigneur, nous t'acclamons ce matin. Tu es digne de recevoir nos louanges, nos actions de grâce. Amen! Asseyez-vous, mes bien-aimés. Merci, Seigneur Jésus. Merci à notre Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je suis heureux ce matin d'être avec vous et de pouvoir partager la parole de Dieu. C'est tout ce que nous avons, c'est tout ce que Dieu nous a laissé à travers Jésus-Christ, puisque le Seigneur Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, quand nous ouvrons la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Parce que l'Écriture dit « Toute Écriture est inspirée de Dieu ». Quand nous ouvrons la parole de Dieu, la Bible que nous avons dans la main ce matin, Dieu nous parle à travers cette parole. Et la grâce qu'il nous fait en plus de cela, c'est que Dieu nous a fait grâce de nous accorder le Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, la Bible reste un livre morte. Et beaucoup de gens ont la Bible chez eux, dans leur bibliothèque, sur la table de chevet. Et quand ils la lisent, lorsqu'il y a des moments, on va dire, de douleur, ils se tournent vers les psaumes et ils récitent les psaumes. Mais les psaumes restent une lettre morte. Mais quand nous avons accepté Jésus, où Dieu nous a fait la grâce de le rencontrer, alors il nous donne le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, quand nous lisons la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu vient et rend vivante cette parole. Amen. Si vous la lisez et vous sentez qu'elle reste comme un livre que vous lisez, arrêtez de la lire et priez et dites « Ô Dieu, envoie ton Saint-Esprit et rends vivante cette parole. » Parce que comment elle peut nourrir mon âme si elle n'est pas vivante? Si vous mangez une nourriture qui n'est pas bonne, elle causera des effets secondaires sur votre santé. Mais la parole de Dieu, elle est vivante. Et en la lisant, l'Esprit de Dieu vient et rend cette parole vivante et elle devient du froment qui nourrit notre âme. Alléluia, frères et sœurs. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens d'aller puiser nos forces en lui. D'aller prendre nos forces en lui. Et ce matin, si nous pouvons rendre un culte, parce que rendre un culte, beaucoup de gens le font ce matin. Le lieu qui se trouve un peu plus haut, on appelle ce lieu-là le temple du, l'église du Saint-Esprit, un peu plus haut. Il y a des gens qui y sont. Mais y rendre un culte, mais à qui y rendre ce culte? Mais nous avons un grand privilège, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous le réalisez ce matin, c'est que Dieu nous a révélé déjà lui, sa personne, pour qu'il devienne notre Père Céleste. Mais en plus, il nous a révélé que Jésus-Christ est son Fils. Et nous savons que le fait de connaître que Jésus est le Fils de Dieu, la Bible dit que sans passer par Jésus, sans connaître Jésus, on ne peut pas offrir à Dieu quelque chose qui lui est agréable. C'est pour ça que l'Écriture dit que par lui, par Jésus-Christ, offrons. En dehors de Jésus, nous ne pouvons pas offrir à Dieu quelque chose. D'où le fait que ce matin, vous qui êtes là, Si vous êtes là de manière religieuse, sans pour cela avoir rencontré, faire une rencontre avec Christ, votre présence, c'est bien. Mais le vœu de notre cœur, c'est que même lors de ce culte, Dieu vous fasse la grâce de connaître qui est Jésus-Christ. Que Dieu vous révèle qui est Jésus. Sinon, c'est un moment, un bon moment que vous allez passer avec des beaux cantiques, un bon moment où on est là, mais ça sera seulement un bon moment. Mais pour nous, les enfants de Dieu, qui avons rencontré Christ, c'est un grand privilège que nous avons. C'est que nous pouvons nous approcher de Dieu ce matin. Nous pouvons aller vers lui parce que Jésus-Christ, Dieu nous a emmenés à la croix un jour. Et à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une transformation. Dieu a changé nos vies. Autrefois, nous étions morts, dit l'Écriture. Nous adorions des idoles. Nous nous prosternons devant des statues. Nous adorons, on était en train d'adorer les astres, on parlait au je ne sais à qui. Mais aujourd'hui, béni soit Dieu. Nous parlons au Dieu vivant et vrai. Par le médiateur parfait qui s'appelle Jésus-Christ, nous pouvons passer par lui pour aller vers Dieu ce matin. Et Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Alléluia. Il a fait de nous des sacrificateurs, des personnes qui pouvons venir dans sa présence et officier, faire le service. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, le temple est constitué en deux parties. Il y a le lieu saint, où le sacrificateur rentrait constamment, et le lieu très saint, la présence de Dieu. Et dans le lieu très saint, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui y rentrait une fois par an. Et quand il y rentrait, le peuple était là pour attendre pour voir s'il sortait. Il rentrait pour représenter le peuple devant Dieu. Et s'il ne sortait pas, ça veut dire que Dieu l'avait tué. Et que Dieu n'avait pas agréé ce qu'il était venu apporter à Dieu. Mais nous avons la personne de Jésus-Christ, c'est pour ça que l'Écriture dit, par lui, par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Amen. Et ce matin, nous avons peut-être parlé de beaucoup, il y a beaucoup de noms qui sont sortis de notre bouche, mais quand nous sommes dans la présence de Dieu, le seul nom que Dieu agrée, c'est le nom de Jésus. Réalisons cela. Ça évitera que, quand nous nous retrouvons comme ce matin, nous ne venons pas pour perdre notre temps, mais nous venons pour adorer celui qui est au milieu de nous, qui nous a dit, là où deux ou trois sont rassemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous savons que Jésus est là, qu'il sonde nos cœurs, qu'il sonde nos cœurs ce matin. Il sait dans quel état d'esprit nous sommes venus ici. Des personnes durant la semaine ont dû peut-être aller, je ne sais d'où, leurs pieds ont dû franchir des lieux où ils n'auraient jamais dû franchir. Peut-être certains au milieu de nous, vous me direz, mais c'est pas normal, oui, parce qu'au milieu du peuple de Dieu, normalement ce serait que des enfants de Dieu, nés de nouveau, qui devraient y être. Pourquoi ? Parce que quand on rend un culte à Dieu, ce sont ceux nés de nouveau qui sont passés par la nouvelle naissance qui devaient se retrouver pour rendre un culte à Dieu. C'est comme ça. Et la Bible nous dit que dans les premiers chrétiens dans les Actes, quand ils se rassemblaient comme nous, les étrangers et les païens n'osaient même pas se joindre à eux. Frères et sœurs, vous savez, aujourd'hui dans les églises, il y a Dieu, il y a la présence de Dieu, mais il y a aussi les chrétiens nés de nouveau, mais il y a aussi beaucoup de personnes qu'on peut appeler les ramassis. C'est des personnes qui viennent parce qu'ils disent « bon, je vais aller à l'église, oui, je connais, ils vivent sur les souvenirs ». Mais avez-vous réellement rencontré Christ ? quand on a vraiment fait cette rencontre avec Jésus-Christ, on vient non pas avoir les yeux sur les uns les autres, mais sur celui qui nous a sauvés, sur Jésus-Christ, sur Dieu le Père. Amen. Alors ce matin, si tu es là, et que tu n'as pas véritablement fait cette rencontre avec Dieu, avec Jésus-Christ, tu as la possibilité de le faire avant de quitter cette salle. Tu pourras venir devant tout à l'heure et demander à ce qu'on prie pour toi et t'aider à faire cette belle rencontre. Ainsi, tu rentreras dans cette vie nouvelle et tu pourras participer et rendre un culte aussi à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je reviens sur la parole de Dieu. J'y suis déjà dedans. Dans l'Ancien Testament, il nous est parlé de Monsieur Aaron, qui était le frère de Moïse. Et souvent, comme Moïse a dit à Dieu, « j'ai pas la parole facile », Dieu a dit « tu diras à Aaron ton frère et lui il parlera à ta place devant le Pharaon ». Et vous vous souvenez, quand Moïse s'est présenté avec Aaron devant Pharaon, Moïse avait un bâton. Il a donné ce bâton à Aaron et Aaron a jeté le bâton par terre. Vous vous souvenez de ça? Pour ceux qui ont vu le film, ils se souviennent tout de suite. Jette le bâton devient un serpent. C'est extraordinaire. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Alors, Pharaon a vu cela et il a dit, tiens, moi aussi, j'ai des sorciers qui peuvent aussi faire la même chose. Voyez que l'adversaire, c'est le singe de Dieu. Et il détient aussi une puissance. Parce que avant, il était au ciel, on l'appelait Lucifer. C'était celui qui dirigeait la musique. Aujourd'hui, il dirige la musique et il attire beaucoup de gens, et même certaines églises, à faire un culte de la musique. Voyez qu'il a encore gardé ses capacités pour pouvoir tromper beaucoup et même certains d'enfants de Dieu. Et quand Aaron a jeté le bâton est devenu un serpent. Pharaon a fait venir ses sorciers, plusieurs, avec des bâtons, pareil. Et Pharaon leur a dit, est-ce que vous pouvez faire la même chose? Ils disent, mais bien sûr, aucun problème. Ils ont jeté leurs bâtons et leurs bâtons sont devenus des serpents. Alors, est-ce que Aaron s'est gratté la tête en disant, tiens, j'ai un problème. Dieu, tu nous as trompés. Non, non, non. Vous savez ce qui s'est passé? Le serpent d'Aaron a englouti les serpents de Pharaon, les magiciens, les sorciers. Vous rendez compte? Un serpent a englouti les autres serpents. Il n'a pas dit un serpent, mais il y avait, la Bible ne nous dit pas combien qu'il y en avait. Et quand les sorciers ont jeté leur bâton, le serpent, le bâton de Dieu, qui est devenu un serpent, a englouti les serpents des sorciers de Pharaon. Voilà la puissance de Dieu, frères et sœurs. La puissance du Dieu que nous servons, c'est qu'il est toujours vainqueur. Face aux ennemis, Dieu nous donne toujours la victoire. Alléluia ! Ne te décourage pas, frères et sœurs, ce matin. Même si l'adversaire se dresse devant toi comme une montagne, comme un ours, sur ses deux pattes, comme un lion rugissant, résistez-lui avec une foi ferme. Ne tremblez pas devant lui. N'ayez pas peur, parce que ta vie a de la valeur pour Dieu et pour Jésus-Christ. Il n'y a pas un seul de brebis que Dieu a confié à Jésus qui s'est perdu. Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, si ce n'est celui qui devait. Mais Dieu a un amour, frères et sœurs. Jésus a un amour pour toi, frère, sœur. Tu ne peux pas imaginer. L'Écriture dit ceci, que Dieu ne veut qu'aucun ne périsse. Aucun de vous, si vous restez attaché à Jésus, même si c'est difficile, le Seigneur dit, il ne veut qu'aucun de vous ne périsse. Mais que tous, voyez, pas une partie, pas une catégorie de gens, mais tous parviennent à la repentance. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est son désir. Et Jésus prend une parabole. Il dit un homme avait 100 brebis. C'est beaucoup, 100 brebis. Oui ou non? Une église de 100 âmes, 100 personnes, c'est quelque chose d'assez intéressant déjà. Et Jésus dit, un homme avait 100 brebis. Et il y en a une brebis qui s'est perdue, qui s'est égarée. Peut-être que toi, ce matin, tu es là, mais tu n'es plus en communion véritable avec Dieu, avec Jésus-Christ. Tu t'es égaré, tu ne pries plus, tu n'as plus envie de marcher, tu es fatigué. Et tu t'es reclus, tu t'es remis, tu t'es mis dans un coin. Et là, tu dis, bon, j'ai plus envie, je suis découragé. J'en ai marre. Ça peut arriver des fois. Mais le Seigneur Jésus dit ceci. Cet homme qui avait 100 brebis, il y en a une, pas 10, pas 20, mais une qui s'est perdue. Vous savez ce qu'il a fait? Il laisse les 99 quelque part et il va chercher celle qui s'est perdue. Voyez l'amour de Dieu, frères et sœurs? Parce que Dieu est le seul qui connaît la valeur de ton âme. Dieu est le seul qui sait combien ton âme est précieuse à ses yeux. Il va laisser celle et celui qui marche, le chrétien qui est en pleine forme, qui dit tout va bien, alléluia, il est sur les hauteurs, il a la foi, il bénit Dieu, quand il prie, Dieu l'exauce. Alléluia pour ta vie, frère, si c'est cela, ce matin. Et pour celle et celui qui s'est égaré, qui sent que la fatigue arrive, l'épuisement est là, sa main commence à faiblir comme les mains de Moïse, qui était sur la montagne, qui intercédait pour Josué, qui était dans la vallée, en train de combattre l'ennemi Amalek. Les mains de Moïse commençaient à faiblir. Et Aaron et Hur se présentèrent là, ils étaient là avec Moïse sur la montagne. Il fit asseoir Moïse sur un rocher bien confortable. Et l'un et l'autre soutenaient les mains de Moïse. Parce que quand Moïse avait les mains levées, Josué, Israël avait le dessus sur l'ennemi Amalek. Et quand les bras de Moïse descendaient, quand le chrétien affaibli se fatigue parce qu'il en a assez ou je ne sais quoi, l'adversaire le pilonne jour et nuit par des mauvaises pensées, alors il en a marre de combattre, il commence à baisser les mains, Dieu inspire un frère, une sœur, sans le savoir, en disant « prie pour elle, prie pour lui ». Et à ce moment, le frère et la sœur qui commencent à avoir les mains qui faiblissent, ils sentent une force. L'Esprit de Dieu vient sur elle. Et sur lui, là où elle se trouve, elle sent un renouveau en lui ou en elle. Parce qu'il y a quelqu'un qui prie pour elle. Parce qu'il y a quelqu'un que Dieu a inspiré pour prier pour elle. Alléluia. Frères et sœurs, ton âme est précieuse aux yeux de Dieu. Et pendant que Aaron et Hur soutenaient les mains de Moïse, Israël et Josué, l'armée d'Israël, reprenaient le dessus sur Amalek. Et je peux vous dire, les mains de Aaron et Hur n'ont pas faibli. Ils ont soutenu les mains de Moïse jusqu'à ce que Josué ait le dessus et obtient une victoire sur Amalek. Gloire à Dieu ! La chair nous fait des tours. Et il y a dans l'armure de chacun de vous ce matin une faille. Et béni soit Dieu, la Bible nous dit que Jésus, il est notre avocat auprès du Père. Il est celui qui intercède en ta faveur pour que là où la brèche, là où il y a la faille, là où l'adversaire quelquefois essaie de s'infiltrer pour t'emmener à basculer, le Seigneur Jésus est là. Et qu'est-ce qu'il fait quand l'adversaire vient comme un lion rugissant qui rôde, cherchant qui dévorer? Quand il voit les mains de Jésus, il dit « Ah, ce sont des mains avec des stigmates. Celui-là m'a vaincu à la croix du calvaire. » Il y a une puissance dans le nom de Jésus, frères et sœurs, que nous ne réalisons pas. Nous avons de la part de Dieu, de Jésus, une procuration pour utiliser ce nom qui a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Et quand tu prononces ce nom-là dans la foi, il se passe quelque chose. L'ennemi est obligé de reculer. Il est obligé de quitter les lieux au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une puissance dans ce nom. La puissance n'est pas en nous, mais dans ce nom. Et quand nous utilisons le nom de Jésus, certains chrétiens disent le sang de Jésus, le sang de Jésus, le nom de Jésus, mais ils utilisent sans connaître la vraie valeur et la puissance qu'il y a derrière ce nom. Alléluia! Alors Aaron et Hur soutenèrent les mains de Moïse, et Aaron, justement, a jeté son serpent, et son serpent engloutit les serpents des magiciens. Et ce fameux Aaron, le frère de Moïse, a été celui dont la sœur Marie a commencé à critiquer l'homme de Dieu Moïse. Mes sœurs, éloignez-vous de toute sœur qui a la langue bien... Comment vous savez bien pendue ? Jésus disait de ses contemporains, des hommes religieux, race de vipères. La vipère n'a pas une langue comme vous et moi. Et quand une vipère sort sa langue, il y a deux fourches, n'est-ce pas ? Et je pourrais dire que certaines personnes, quand ils vous parlent, pour vous amadouer, il y a une partie de leur langue qui vous caresse, dans le sens du poil. Juste pour vous amadouer. Vous savez, ça fait ça comme ça, comme de la crème Nivea. Voilà, ils vous caressent. Et l'autre langue, c'est pour vous piquer. Piquer, mais aussi pour jeter ce venin dans votre esprit et dans votre cœur. Et quand vous avez affaire avec des personnes comme ça, n'ouvrez pas votre cœur. Gardez votre cœur fermé, parce que la Bible dit, Jésus dit, ne donnez pas vos perles aux pourceaux. Ce sont des personnes, quand ils rentrent dans votre vie, ils connaissent votre vie, ils utilisent ce qu'ils savent sur vous pour vous dénigrer auprès d'autres. Ça existe dans les églises, hein. Et il y en a qui en ont fait les frais et qui ont du mal aujourd'hui à se tenir, ou quand ils viennent, ils sont très méfiants. Ils ne sont pas prudents, mais ils sont méfiants. Ça a produit en eux, en elles, de la méfiance. Et normalement, quand on se retrouve comme ce matin, il n'y a pas de méfiance. Parce que l'amour ne soupçonne pas le mal, frères et sœurs. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, comme un seul homme devant Dieu, le Saint-Esprit nous unit tous, sans exception. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni étranger. Nous sommes tous héritiers, co-héritiers de Christ. Dieu a fait de nous ses enfants. Quand il nous regarde, il ne fait pas de distinction. Il nous regarde et il voit Christ en nous. Alléluia. Et c'est pour ça que l'Écriture dit, par lui. On ne vient pas avec « je viens de tel pays, je viens de tel endroit ». On ne transpire pas notre identité humaine. On transpire notre identité céleste. Nous sommes enfants de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et j'ai apprécié, comme disait le pasteur Claude tout à l'heure, il a tout de suite ramené les choses en disant, pour éviter que lundi, je suis des îles, je suis ceci. Vous savez, on est nombreux. Et c'est vrai, béni soit Dieu, que Dieu a permis que son serviteur ait pu ramener les choses afin qu'il n'y en ait pas qui pensent que, bon, c'est les Martiniquais, etc. Non, non. On est tous des enfants de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et c'est ça que Dieu veut ce matin. Alors, nous sommes venus rendre un culte à Dieu. Et Aaron avait deux fils. Vous les connaissez, les noms des deux fils d'Aaron ? Et avant de parler de leurs fils, je vous disais que la sœur de Moïse et d'Aaron s'appelait Marie. Et Marie a trouvé anormal que Moïse avait pris une femme éthiopienne. Les Éthiopiens, ce sont des bien-aimés, ce sont une race qui ont la couleur de la peau un peu comme nous, un peu couleur foncée. Dis foncé, dis pas mat. Benjamin, il dit mat pour faire un peu genre. Non, couleur foncée. Et Marie ne trouvait pas ça normal. Et il en a parlé à son frère Aaron. Et quand Dieu a entendu, vous savez que Dieu entend même quand on parle au téléphone, même quand on murmure, il sait ce que vous dites. Et il sait ce matin ce que vous pensez. Et Dieu a entendu ce que disait Marie, et Dieu était en colère. Dieu n'était pas content. Dieu n'aime pas. Ce n'est pas parce que, je ne parle pas uniquement des serviteurs, parce qu'on dirait, ah, il ne faut pas parler mal des serviteurs. Non, il ne faut pas dire du mal les uns des autres. Il ne faut pas parler mal les uns des autres. Il ne faut pas faire ça. Il faut s'aimer les uns les autres. Et Dieu a entendu ce que disait Marie sur Moïse. Cela déplut à l'Éternel. Et Dieu, ce qu'il a fait, il les a convoqués. Il a dit, venez par ici. Et Dieu a frappé Marie de la lèpre, pas noire, ni rose, mais la lèpre blanche. C'est-à-dire quand tu voyais Marie, la magnifique jeune femme, belle femme qu'elle était, on voyait qu'elle était marquée. Dieu l'avait frappée. Et si Dieu ne lui avait pas fait grâce en inspirant Moïse à prier pour elle, mes amis, elle serait morte. Et vous savez que la lèpre, être frappé de la lèpre, les gens qui étaient lépreux étaient mis à part, comme dans un camp, séparés des autres. Alors, pendant 7 jours, le peuple d'Israël a été bloqué dans le désert. À la limite, le peuple devenait vulnérable à cause d'une femme, à cause de la langue, à cause de la médisance, à cause de la calomnie. Le peuple de Dieu n'avançait pas. Frères et sœurs, tirons leçon de ça. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Merci mon frère. Qui a dit amen? Nous voulons voir la gloire de Dieu. Alors gardons-nous de dire du mal les uns des autres. Cet après-midi, j'ai la charge d'annoncer l'Évangile. La Bible nous dit que l'Évangile est une puissance, c'est une bonne nouvelle. Une puissance pour le salut de quiconque croit. Eh bien, cette puissance, l'Évangile qui sera annoncé, Dieu opérera des choses merveilleuses que s'il voit au sein de son peuple que nous nous gardions de dire du mal les uns des autres. Et vous voyez combien la puissance de Dieu quelquefois ne se manifeste pas comme on aimerait qu'il se manifeste, parce que Dieu entend ce qui se dit dans le secret. Dieu voit certaines attitudes. Dieu sonde vos cœurs et vos reins. On peut tromper les hommes, mais pas Dieu. Aux yeux de Dieu, les ténèbres sont lumière. Et Dieu a entendu ce que disait Marie. Dieu l'a frappée. Dieu l'a mis pendant 7 jours à l'écart du peuple. Le peuple de Dieu qui était appelé à être en mouvement, à bouger, à aller de lieu en lieu dans le désert, à faire de belles expériences avec Dieu dans le désert. Un peu comme dans ce monde, l'Église est appelée à être en mouvement, à aller, à évangéliser, à proclamer le nom de Jésus-Christ. Eh bien, quelquefois, à cause de ce qui se passe au milieu de nous, l'Église est comme bloquée, sclérosée, figée, paralysée, à cause d'injustices, à cause de situations critiques qu'il y a au sein du peuple. Ce matin, frères et sœurs, examen de conscience, que ça soit pour moi ou pour vous, nous sommes dans une période où nous devons laisser le Saint-Esprit défricher en nous, remuer la terre de notre cœur pour nous remettre en question. À savoir où nous en sommes avec Dieu. Pourquoi notre vie n'est pas si épanouie qu'elle devrait l'être? Pourquoi l'Église de Christ, cette Église qui a été instrument puissant entre les mains de Dieu, les gens rentraient ici, ils étaient saisis sur place. L'Esprit de Dieu tombait sur eux, ils se donnaient à Christ, ils pleuraient sans savoir pourquoi. Parce qu'il y avait une telle présence de Dieu. Frères et sœurs, Nous avons cet héritage que nos pères nous ont transmis. Que faisons-nous avec? Nous avons une grande responsabilité, c'est de transmettre à la génération future cet héritage. C'est ça, frères et sœurs. Nous ne devons pas leur transmettre un héritage qui est bancal. Nous ne devons pas leur transmettre quelque chose qui est à peu près... Nos pères ont travaillé, comme le serviteur qui est là. Ils nous ont transmis quelque chose. Habillés, non pas sales, non pas à peu près. Ils nous ont transmis les choses. Nous devons les garder telles quelles et le transmettre à la génération future. Ne pas nous laisser basculer dans les nouvelles formules pratiques des églises évangéliques où la musique a pris une place incroyable. La musique a pris la place de la parole de Dieu. La musique a pris la place de la puissance de Dieu. Et pourtant, Lucifer était celui qui dirigeait la musique dans le ciel. Mais avec une telle subtilité, il a réussi à s'infiltrer dans les assemblées et à ce que on lui rende, au lieu de rendre un culte à Dieu, on lui rend un culte à lui. Alors les chrétiens vivent comment ? En étant des chrétiens assistés. Aujourd'hui, vous êtes chez vous, vous passez une commande pour manger, vous n'avez pas envie de manger, le monsieur arrive avec sa moto, en bas, il vous sert. Ça fait quoi ? Ça fait des chrétiens servis sur place. Ça fait qu'aujourd'hui, des chrétiens, pendant que nous sommes là, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et ce matin, beaucoup de bien-aimés sont chez eux devant la télé, devant le petit écran, et ils passent leur culte. Ils prennent la Sainte Cène chez eux. Qu'il est haut, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer, comment ? Ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. C'est là que Dieu envoie son onction, comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron et sur sa barbe, et qui descend jusque sur sa robe. L'onction de Dieu vient quand le peuple de Dieu est réuni, frères et sœurs. Comme ce matin à travers les chants, la présence du Saint-Esprit, l'onction de Dieu vient pour nous emmener ensemble comme un seul homme à adorer Dieu et à adorer Jésus. Aaron avait deux fils, Abihu. Cela se trouve dans Lévitique chapitre 10, s'il vous plaît. Lévitique 10. Dans quel état d'esprit nous sommes là ce matin ? Nous sommes venus en étant conscients que c'est Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit, qui nous a fait connaître Jésus pour pouvoir lui rendre un culte. Autrefois, nous rendions un culte à des idoles. Nous nous prosternions devant des idoles. Aujourd'hui, on se prosterne devant le Dieu vivant et vrai et devant notre Seigneur Jésus-Christ pour l'adorer. Alléluia, frères et sœurs. Voilà ce que nous dit l'Écriture dans Lévitique. Vous n'aimez pas lire le livre de Lévitique, hein ? Il parle beaucoup de sacrifices, de règles. Il nous est parlé dans ce livre-là, au chapitre 10 et au verset 1er. Sachez que Dieu avait demandé à Moïse de faire venir avec lui ces deux garçons sur la montagne. Ils étaient là dans la présence de Dieu, ils ont vu des choses dans la présence de Dieu. Ça veut dire que on peut être chrétien et parce que nous pouvons vivre, les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés, se relâcher. Mais nous ne devons pas nous relâcher, frères et sœurs. Puisque Jésus dit, c'est celui qui persévérera jusqu'au bout qui sera sauvé. La récompense est donnée à ceux qui ont persévéré jusqu'au bout. Et là, nous voyons que Aaron avait deux fils. Il est dit ceci au verset 1er. Les fils d'Aaron, on nous donne leur nom, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier Et là, nous voyons qu'ils prirent chacun un brasier. Il y avait un feu qui était allumé dans le temple. Et ce feu qui était sur l'autel devait être entretenu par les sacrificateurs. Et là, nous constatons que ces deux garçons qui officiaient dans le temple se sont permis d'aller prendre un feu étranger, un feu dont la source ne venait pas du feu qui était dans le temple, de l'autel. C'est que quelque part, on peut constater, on peut se dire, tiens, on peut se permettre de sortir en gros de la doctrine de Christ en disant, oui, Dieu est bon. Il va quand même pas rejeter ce qu'on lui offre. On vient avec du zèle, avec de la passion. La chair est en mouvement. Dieu a horreur de ça. Tout ce qui vient de la chair, il en a en horreur. C'est pour cela, frères et sœurs, que Dieu, dans sa bonté, à travers Jésus-Christ, nous a revêtus de la justice de Christ. Cette robe-là, c'est ce que Dieu veut voir. Non pas notre propre justice, mais la justice de Christ. La Bible nous dit que Christ a été fait pour nous, sagesse, justice de la part de Dieu, sanctification et rédemption. C'est pour cela que je vous disais au début, l'Écriture dit, par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Ces deux garçons se sont permis d'allumer un autre feu. Ils ont considéré que le feu qui était là sur l'autel, qui était le feu de Dieu. Ils ont considéré qu'ils n'avaient plus besoin de ce feu-là, de l'assistance de Dieu pour pouvoir venir dans la présence. Faites bien attention, frères et sœurs. Quand nous venons devant Dieu, nous venons au nom de Jésus. Ne l'oubliez jamais, n'oubliez jamais de prendre cette couverture. Quand nous venons dans la présence de Dieu, venons au nom du Seigneur Jésus. Ne venons pas au nom d'une dénomination, au nom d'un pasteur, au nom d'une identité quelconque, mais venons devant Dieu comme étant ses filles et ses fils. Amen. Ils ont considéré qu'il y avait une autre source pour allumer un feu, ils ont été prendre une autre source. Ils ont été s'alimenter ailleurs que dans les Saintes Écritures. Et pourtant, Dieu leur avait dit, je n'accepterai pas un autre feu que le feu qui est dans ma présence. Dieu n'acceptera jamais une louange, une action de grâce, une adoration qui vient de nous, de la chair, de ce qui est humain, de ce qui est créé par une ambiance, de ce qui amène à ce que la chair transpire, ça, Dieu a horreur de ça. Le lin est une matière très agréable. Et quand vous mettez une chemise en lin, quand il fait chaud, ça ventile, n'est-ce pas? Et dans la présence de Dieu, c'est ce qu'il fallait. Habillé de fin lin. Dieu veut ce matin nous habiller de vêtements de justice, mais de fin lin, parce que nous sommes des sacrificateurs. Nous officions dans la présence de Dieu. Nous sommes là pour adorer sans cesse, louer Dieu, louer Jésus, l'adorer sans cesse. Mais Dieu n'acceptera jamais que nous venons avec un zèle produit par la chair, une passion produite par la chair. Dieu n'acceptera jamais ça. Nous, nous faisons des sentiments, mais Dieu ne fait pas de sentiments. Dieu a dit, regardez ce qui se passe. Ces deux garçons se sont permis d'allumer un feu qui ne venait pas de l'autel et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu, dites-le, du feu étranger. Bien-aimés, l'apôtre Paul dit ceci, que dans les derniers temps, les hommes vont chercher des choses qui leur soient agréables. Ils aimeront entendre des choses agréables. Ils auront, Ils n'auront pas un amour pour la vérité, mais ils seront plus attirés vers ce qui chatouille, ce qui est agréable, une ambiance. Voyez, ils renieront ce qui fait leur force, ils renieront la vérité. Ils vont s'attacher plus aux fausses doctrines que de s'attacher à la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dieu ne se laissera jamais impressionner par nos zèles, certaines zèles là comme ça qui viennent de la chair. Dieu ne sera jamais impressionné par ça. Par contre, quand Dieu voit que nous venons devant lui d'une manière solennelle, respectueuse, il voit qu'on est là. On sait qu'on est devant le Dieu vivant, celui qui tient nos vies. Et quand il voit que nous sommes devant lui respectueusement, sincèrement, je ne dirais pas, là, comme ça, n'osant même pas louer Dieu, non, mais on vient devant lui et on laisse le Saint-Esprit venir sur nous, nous remplir pour pouvoir offrir à Dieu, justement, ce qui vient de l'Esprit, quelque chose qui lui est agréable. Dieu agrée cela. Regardez, frères et sœurs, de la même façon que le serpent d'Aaron, le bâton, a englouti les autres serpents, regardez ce qui se passe. Ils posèrent du parfum dessus, ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Dieu n'avait pas donné cet ordre-là. Au verset 2, alors le feu, voyez, feu contre feu, le feu étranger, où nous allons puiser notre source pour amener devant Dieu, le Seigneur à la croix du calvaire a crucifié la chair. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure, on ne peut pas, quelqu'un ici ce matin ne peut pas offrir un culte à Dieu, une adoration, une louange à Dieu, sans passer par la croix. Qui dit passer par la croix dit que Christ a crucifié la chair. La chair doit être crucifiée à la croix. Et celui ou celle ce matin qui peut offrir un culte à Dieu, c'est celui ou celle qui est passé par la croix et qui a accepté de mourir avec Christ. Amen. Il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont voulu mourir avec lui. Hein? Je te suivrai partout où tu iras, quelqu'un a dit. Et quand le moment est venu, crucial, à Gethsémané, où tous étaient là, quand ils sont venus pour l'arrêter, il y a eu une grande confusion. Pierre a sorti son épée, il a coupé l'oreille de Malchus. Il y a eu Judas qui a fait un baiser à Jésus. Il y a eu la confusion, mais Jésus savait qu'est-ce qui allait se passer. Il était là, il s'est laissé faire. Et dans l'évangile de Jean, il nous est parlé, tous se sont dispersés. Les brebis, les disciples se sont dispersés. Et il y en a eu un jeune homme qui était habillé avec un drap, mais ce jour-là, il avait oublié de mettre un sous-vêtement, pour rester propre. Et il était là, comme s'il voulait, c'était le seul résistant. On pourrait dire, tiens, au moins il y en a un qui a tenu bon. Mais non. Le seul qui pouvait passer par la croix, c'est Jésus. Pas un autre. Aucun de nous avant Jésus ne pouvait aller à la croix. Seul Jésus, quand il s'est trouvé face à Jérusalem, la Bible nous dit que Jésus a pris la résolution de monter à Jérusalem parce qu'il savait qu'il devait souffrir là-bas. Alors Pierre, il vient, il dit, mais non Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais non ! Jésus l'a regardé, il a dit, arrière de moi, Satan. Parce que ce que tu es en train de dire, ça ne vient pas de Dieu. Tu veux me troubler ? La volonté de Dieu, c'est que j'aille à Jérusalem pour souffrir. Et vous tous qui êtes là avec moi, que je vous ai choisis, vous n'allez pas pouvoir tenir le choc. Ah ben tous, ils se sont éparpillés comme des mouches. Seul Jésus a été trouvé au pressoir. Seul Jésus a été, c'est pour ça ce matin, la Bible nous dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu. Ce matin, il n'y a qu'une personne ici qui mérite, qui est digne de recevoir nos louanges, c'est Jésus-Christ. Nous devons nous focaliser sur lui. Nous devons lui donner toute la gloire à Jésus ce matin. Non pas à nous, éternel, mais à ton nom. Au nom de Jésus, nous donnons gloire. Alléluia. Alors je reviens à ces deux garçons. La Bible nous dit qu'au verset 2, « Alors le feu sortit de devant de l'éternel et les... » Merci de l'avoir dit. Ils ont amené un feu étranger, mais le feu qui était là, le feu de Dieu, frères et sœurs, quand ils sont venus dans la présence, quelle légèreté, quelle inconscience. Comment des sacrificateurs qui étaient habitués à servir leur papa, Aaron, leur a montré comment faire. Nos pères nous ont transmis la doctrine. Comment aujourd'hui nous détournons, on va se détourner pour aller à une autre source de fausse doctrine pour emmener dans l'Église. On ne peut pas faire ça, frères et sœurs. Sinon, Dieu va nous tuer. C'est son Église. C'est la prunelle de ses yeux. Et si tu essayes de faire entrer au milieu du peuple de Dieu quelque chose qui n'est pas de la source de Jésus, de la doctrine de Christ, le Seigneur te fera quitter la terre. Les gens pourront pleurer. Tu auras peut-être un beau serment du pasteur. Mais ton temps sera fini sur terre. Faisons bien attention, frères et sœurs. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu vont ça et là. Ils n'ont même pas, quelquefois, besoin de bouger. Ils cliquent sur l'écran et ils ont tout. Ils entendent tout, ils voient tout. Comment pouvez-vous accepter, frères et sœurs, que la Sainte Seine, instituée par notre Maître Jésus, a été prise dans un moment intime? Luc nous dit qu'il avait un vif désir de prendre ce repas avec les siens. Un moment intime, il devait mourir quelques heures après. Il avait besoin de ce moment avec eux. Eh bien, c'est ce que le Seigneur, ce matin, en nous conviant à sa table, il a envie de passer ce temps avec nous. Il a envie de nous regarder. Vous savez, quand vous mangez un repas avec des gens que vous invitez, vous les regardez. Vous les servez pas comme ça en disant, tiens, mange. C'est un bon moment. Il voulait passer ce moment avec ses disciples. Et la Bible nous dit qu'il avait ce vif désir dans le cœur. Aujourd'hui, frères et sœurs, la Sainte Seine, c'est sur la place publique. Ce n'est plus un moment intime. C'est un moment où tout le monde peut le voir à la télé, du moins sur les écrans. Ce n'est plus un moment intime. Ce qui est de Dieu, les choses saintes sont mises, sont étalées comme ça. Il n'y a plus aucune crainte. Il n'y a plus aucun respect pour les choses saintes. C'est pour ça que ces deux garçons ont été tués par Dieu. Ils ont été légers. Ce n'est pas le nombre d'années qui fait de vous un vrai chrétien. C'est chaque jour que Dieu te donnera de vivre sur la terre. Et à ta façon de t'attacher à lui, à rester attaché à la parole de Dieu, c'est ce qui fera de toi un vrai chrétien. Ce n'est pas le nombre des années. Dieu ne regarde pas les choses comme toi tu les regardes. Dieu ne considère pas les choses comme nous on les considère. Les disciples disaient à Jésus, « Oh, encore 4 mois pour la moisson. » Jésus dit non, la moisson elle est là, c'est la Samaritaine. L'épi, elle est mûre, elle est prête à être fauchée et à moissonner. Eux, ils disaient encore 4 mois. C'est-à-dire, leur calendrier était un calendrier humain. Ils n'étaient pas adaptés au calendrier divin. Mais Jésus dit, non, la moisson, elle est là, elle est prête à être moissonnée. Cette femme samaritaine devenait une source de bénédiction pour son pays, sa région. Quand elle a rendu témoignage, les gens sont venus en masse. Voilà la moisson. Alors, frères et sœurs, adaptons-nous au calendrier divin. Amen. Ne disons pas, c'est les vacances. Normalement, c'est en été qu'on moissonne. C'est-à-dire, au lieu de partir en vacances, on devrait moissonner. On devrait ramasser le blé. On devrait faire comme la fourmi, qui l'engrange pendant l'été. Et en hiver, il est dans la présence de Dieu, il prépare les projets pour l'été futur. Amen, frères et sœurs. Merci, mon frère, tu as dit un amen qui fait du bien à mon cœur. Je finis la pensée, après on va prendre la Sainte Cène. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et il les consuma. Feu contre feu. Le feu humain, ce qui est de la chair, dans la présence de Dieu, Dieu se lève et c'est fini. Et vous voyez, dans le chapitre précédent du Lévitique, le Lévitique 10, au verset 24, 23, juste un peu en haut, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. C'est juste à côté, un peu plus haut, le verset 23. 9, 23. Ça va, j'ai rien dit de mal, hein ? Dépêchez-vous parce qu'il y a l'heure qui arrive pour prendre la Sainte-Cène. 9, 23. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Amen. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Au verset 24, regardez le feu. Et il dit, le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple vit et ils poussèrent des cris de joie. Vous voyez, ce feu-là qui sortait devant l'Éternel a poussé à ce que le peuple pousse des cris de joie. Et se jetèrent sur leur... Vous voyez, frères et sœurs, quand il y a cette manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On tombe sur nos faces. Et on adore Dieu. Et le feu qui est sorti, c'était pour consumer l'Holocauste. Et l'autre feu, le même feu qui est sorti, pour les deux fils d'Aaron, ce feu-là, le même feu, a consumé, a tué les deux garçons, sur place. Alors vous imaginez que le papa Aaron, il aurait dû venir en disant, mais Éternel, pourquoi tu as tué mes deux fils? La logique c'est ça, frères et sœurs. Mais regardez l'attitude d'Aaron, frères et sœurs. Moïse dit à Aaron, au verset 3, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié, répétez-le, par ceux qui s'approche, frères et sœurs, nous devons séparer ce matin tous les autres noms. Et si, madame, monsieur, ça vous est arrivé d'aller dans un lieu religieux et allumer une bougie devant une statue, ou parce que vous vous sentez normal de le faire, faites bien attention parce que vous êtes dans la présence de Dieu ce matin. Venons dans sa présence. Nous sanctifions son nom. Nous séparons le nom de Jésus, le nom de Dieu, avec tous les autres noms. Ça veut dire qu'on ne prononce pas un autre nom dans notre bouche quand nous sommes dans la présence de Dieu. Quand vous êtes dehors dans vos affaires, parlez de tout ce que vous voulez. Mais dans la présence de Dieu, ne vous permettez jamais de prononcer un autre nom que celui de Jésus. C'est pour cela qu'au milieu de nous, quelquefois, certains chrétiens sont malades. Ils sont comme des têtes, des salades défraîchies. Leur vie, ils sont là, il n'y a rien. Parce qu'ils se sont permis de mélanger le nom, de mélanger la parole de Dieu avec leur pensée, leur propre façon de penser. Ne mélangez pas ça, frères et sœurs. Séparons la parole, ce qui est précieux, de ce qui est vil. Nous disons amen. Je finis la lecture et après nous prions. Lorsqu'il dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi », dit Moïse à Aaron. Moïse dit à son frère « Attention Aaron, voilà ce que l'Éternel avait dit. » Et il dit « Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Quand nous sommes là, nous ne devons pas nous glorifier les uns les autres, mais nous devons glorifier Dieu et glorifier Jésus. J'ai pas entendu. Aaron garda le... Il avait intérêt de garder le silence. S'il avait ouvert la bouche, Dieu aurait mis en route le sablier divin, le compte à rebours divin sur sa vie. Je ne sais pas, frères et sœurs, combien de temps qu'il reste que Dieu nous laissera encore en vie, mais ce matin, Dieu peut retourner le sablier divin pour rajouter des années et des jours à votre vie. Si vous faites ce choix de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, et nous disons
Amen.
Amen. Inclinons-nous quelques instants.